Vous écoutez
RMC.
Professeur Adnet, bonjour. Frédéric
bonjour.
Adnet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes donc chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny et directeur médical du SAMU de la Seine-Saint-Denis. SAMU de la Seine-Saint-Denis, est-ce que de nouveaux cas de Covid-19 sont constatés ou pas?
Non, pour l'instant, la situation est extrêmement calme en Seine-Saint-Denis. Comme vous savez, c'était le département le plus impacté par le Covid-19 sur toute l'Île-de-France. Et pour l'instant, tous nos signaux sont au vert, nos marqueurs. Vous savez, on a un certain nombre de marqueurs qui prédisent l'arrivée d'un rebond ou d'une deuxième vague. Et pour l'instant, non, tout est au vert. On n'a pas de nouveaux cas aux urgences ni au SAMU.
Bon, ben ça c'est rassurant parce que des informations venu d'ailleurs dans le monde de Chine commence à inquiéter la communauté médicale, c'est vrai?
C'est toujours une source d'inquiétude, cette fameuse deuxième vague ou plutôt ce rebond, parce qu'on ne croit pas beaucoup à une grande deuxième vague qui viendrait nous submerger.
Et à des rebonds comme ça, des clusters qui s'installent.
Exactement.
Dans certains endroits.
Alors, qu'il y ait des clusters en France, c'est normal puisqu'on a entamé une campagne de dépistage massif et quand on cherche, on trouve, donc ça c'est normal. Par contre, ce qui se passe en Chine nous inquiète un petit peu parce que la Chine avait zéro nouveau cas depuis plusieurs semaines et là tout d'un coup on nous annonce une centaine de nouveaux cas à Pékin alors qu'on sait qu'il faut se méfier quand même des bilans importés de Chine puisque pour la mortalité on sait qu'ils ont sous-évalué. Donc ça, c'est une source d'inquiétude effectivement sur un éventuel rebond.
Oui, professeur Adnet, les annonces faites par Emmanuel Macron sur la nouvelle phase de déconfinement vous semblent logiques?
Oui, je
pense. Déconfiner plus, tout à coup accélérer le déconfinement, c'est logique?
On n'arrête pas les mesures barrières.
Oui.
On a une nouvelle étape dans le déconfinement. Moi, ça me paraît parfaitement en adéquation avec nos marqueurs. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude sur de nouveaux cas. Par contre, il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter le masque, il faut que le port du masque devienne une habitude, si vous voulez, d'un nouveau mode de vie, en attendant éventuellement le vaccin. Mais de réouvrir largement les écoles, je l'ai toujours prôné, et ça me semble logique, je pense que c'est même un peu tard, de réouvrir les restaurants, ça me semble logique. On sait maintenant que le virus, il se transmet surtout dans la famille et dans les transports en commun. Donc, c'est les deux points de vigilance à apporter.
Bien, professeur Adnet, vous restez avec nous. Je vais vous parler de l'hôpital, des urgences, évidemment, puisque les urgences, c'est le cœur, l'un des soucis majeurs de l'hôpital public en France. Il est 7h41. Vous êtes sur RMC.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Le professeur Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis, est avec nous ce matin. Une information en provenance d'Allemagne, Quentin Vinet, à propos du Covid.
Une hausse des nouvelles infections en Allemagne. L'Allemagne, un pays qui teste beaucoup, il y avait 192 nouveaux cas hier. Il y en a 378 ce matin. J'ai d'autres chiffres à l'étranger si vous voulez. La Turquie appelle à ne pas se laisser aller. Le nombre de cas a doublé par rapport au début du mois. Et dernier chiffre, en Nouvelle-Zélande, après 25 jours sans aucune nouvelle contamination, il y a deux nouveaux cas ce matin, des personnes qui arrivaient du Royaume-Uni.
Voilà, professeur Adnet, le virus est toujours là et il se transmet dès que l'on n'observe plus de gestes barrières.
Tout à fait. À l'heure actuelle, on pense que le port du masque et la distanciation sont les mesures les plus efficaces pour ralentir la transmission du virus. Mais il faut bien savoir que le confinement, les mesures barrières ne tuent pas le virus. Le virus va toujours être là. Notre objectif, c'est de diminuer, de ralentir sa progression pour que les capacités hospitalières soient en mesure d'absorber les nouveaux malades. Donc, à l'heure actuelle, les capacités hospitalières sont de nouveau apte à recevoir de nouveaux malades et il faut être vigilant, il ne faut pas affoler les gens, il faut être vigilant.
Voilà, on n'affole personne, mais on reste vigilant, professeur Adnet. Tout n'est pas terminé. Hein. Bien, les urgences. Alors, d'abord, est-ce que vous avez retrouvé aux urgences les patients qui venaient aux urgences avant le Covid? Parfois, certains doivent être là et d'autres ne devraient pas y être. Je regardais un reportage hier. Alors, aux urgences est arrivée une personne qui souffrait de bourdonnement d'oreilles aux urgences. Je crois que c'est à Avicenne, hein, d'ailleurs. C'est chez vous. Chez vous, dans votre service. Une autre personne qui avait un œil rouge. Puis d'autres personnes qui souffraient de constipation, d'un abcès sur la fesse, de plaies à l'index, d'ivresse, de retard des règles, enfin bon, etc., etc. C'est-à-dire qu'on vient aux urgences dès qu'on souffre du moindre petit truc, quoi, si j'ai bien compris.
C'est un peu la rançon de notre succès, c'est la rançon un petit peu de la facilité avec laquelle on peut aller à l'hôpital, on peut aller aux urgences, mais je ne jetterai pas la pierre aux patients.
Non, mais...
Ce qu'on appelle une urgence ressentie, qui ne correspond pas à une urgence avérée, telle qu'on la conçoit. Mais c'est pas ça qui nous gêne réellement, bien sûr. C'est quelque chose de palpable, de visible.
Mais patient va aux urgences parce qu'il ne sait pas où s'adresser.
Exactement. Et il va aux urgences parce que d'abord, en Seine-Saint-Denis, le maillage de la médecine libérale est beaucoup trop large. Il y a très peu maintenant de médecins généralistes qui vont dans les familles, qui ont des cabinets. Il y a très, très peu de spécialistes. Et donc, les patients viennent aux urgences. Mais on peut s'occuper de ces patients-là. Il faut bien comprendre ça. Le seul problème, c'est qu'on dépense la majorité de notre temps à essayer de placer des patients qui méritent une hospitalisation et à chercher à trouver un lit. S'il n'y avait pas ce blocage en aval des urgences, il n'y aurait pas ce blocage en amont. Si vous voulez, on perd notre temps à chercher des places et donc on ne peut pas s'occuper des petites urgences qui nous prennent finalement pas beaucoup de temps.
C'est la raison pour laquelle vous attendez beaucoup, mais alors beaucoup, de cette réforme de l'hôpital. Enfin, on en a connu des réformes de l'hôpital. Mais là, pendant 3 mois, vous avez vécu un autre hôpital avec la crise du Covid-19. Et cet autre hôpital, vous voulez qu'il soit pérennisé.
Exactement. Je voudrais pas pérenniser la crise, mais j'ai vu fonctionner en tant que chef de service, chef de pôle, j'ai vu fonctionner un autre hôpital pendant la crise. Un hôpital qui n'était plus du tout centré sur des problèmes de rentabilité, sur une gestion comptable. Dans la crise, tout d'un coup, la gouvernance de l'hôpital s'est médicalisée. Les médecins ont repris, si vous voulez, un peu de pouvoir de décision. Et un hôpital qui, tout d'un coup, bien sûr, en faveur de la crise, s'est concentré, orienté sur le soin, le patient, et non pas sur une gestion comptable. Alors c'était assez facile puisque c'était un peu open bar. On avait des crédits facilement puisque effectivement il y avait une crise sanitaire majeure. Mais je crois que ce mode de fonctionnement, il faut en garder quand même certaines leçons. Et moi je prône, bien sûr il faut rendre l'hôpital plus attractif, mais je prône aussi pour une nouvelle gouvernance hospitalière qui ne soit plus centrée simplement sur une gestion comptable, mais qui doit être médicalisée et se réorienter vers le patient.
Professeur, vous irez participer au rassemblement aujourd'hui?
Oui, bien sûr, parce que j'ai entendu les promesses de notre président de la République.
Oui, moi je me souviens des promesses. Hein. Les héros en blouse blanche se souviennent de la promesse d'Emmanuel Macron, un plan massif pour l'hôpital public.
Je l'ai entendu.
C'était
aussi
à Mulhouse.
Oui, je l'ai entendu aussi. Et ça a suscité
quoi qu'il en coûte.
Voilà, ça a suscité beaucoup d'espoir.
Oui.
Et pour moi, énormément d'espoir. Il a dit qu'il allait investir massivement dans l'hôpital public. Il a dit aussi que l'hôpital public est un des piliers de notre République, ce que je crois profondément, puisque je me suis orienté vers une carrière publique. Mmh. Et j'ai beaucoup d'espoir sur ces annonces qui ont été faites par le président de la République. Et donc, il faut revaloriser, il faut rendre attractif l'hôpital public. C'est son problème numéro un. J'ai vu partir de mon service des soignants, de mon hôpital, j'ai vu fermer des services. Je vois fermer des petits hôpitaux. Je crois qu'il faut réinvestir dans l'hôpital public. C'est un vrai, et on l'a vu au travers de cette crise, c'est un vrai pilier de notre République. Il faut investir massivement et il faut rendre attractif cet hôpital public et il faut changer la gouvernance. Donc il y a deux axes, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il faut maintenir une pression pour que les promesses qui nous ont été annoncées soient tenues.
Je vais donner juste 2-3 chiffres qui vont nous servir de repère. 8 milliards d'euros d'aide pour l'automobile, 15 milliards d'euros d'aide pour l'aéronautique. Il en faudrait au moins 8 ou 10 pour l'hôpital public. Ça serait pas mal, non?
Ça serait.
Pourquoi pas? Je pose la question. Merci, professeur Adnet. Je serai tout à l'heure avec un autre médecin, le professeur Eric Combe, qui sera avec moi. On va parler d'infectiologie tout à l'heure à 8h35. Merci beaucoup. Hein.